Le balado qui suit est une production de Communication Niviti, Capable Média.
Ici Kim Auclair pour Capable Entreprendre sans limite et vous écoutez la saison 2 de ce magazine que j'ai eu énormément de plaisir à produire, mais aussi à animer. J'espère que vous aurez autant de plaisir à l'écouter. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, à partager en grand nombre chacun des épisodes. Bienvenue à Capable. Aujourd'hui, on rencontre une athlète d'expérience qui a su très tôt à gérer son énergie. Chantal, tu es une athlète paralympique incroyable avec un parcours quand même très riche. Tu es aussi maman, sénatrice, conférencière. Et très tôt dans ton parcours, tu as su à mettre en place des routines, des habitudes pour bien gérer ton énergie et garder la forme justement pour accomplir tout ce que tu fais. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Bien, merci de m'accueillir. C'est un plaisir d'être là.
Oui. Moi, je voudrais savoir un peu, parle-moi de tes débuts. Qu'est-ce qui t'a motivé à persévérer pour te rendre jusque où tu es? Où est-ce que tu en es aujourd'hui?
Ouais, ben c'est une combinaison de plein de choses, hein, parce que je pense qu'évidemment ça part aussi d'un tempérament. Donc moi, je suis née avec un tempérament qui est quand même assez optimiste. Je suis quelqu'un qui est capable de voir les opportunités, les possibilités, qui a envie de croire aussi. J'ai toujours été quelqu'un qui avait beaucoup d'espoir. Donc c'est toutes ces qualités-là, en fait, ce tempérament-là qui, quand j'ai eu mon accident, moi j'ai eu un accident à l'âge de 13 ans qui m'a rendue paraplégique, ben j'avais quand même une bonne base pour passer à travers ce défi-là, tu sais. Donc ça, je pense que ça l'a fait une grande différence pour moi, parce que à l'époque là, on se rend pas compte parce qu'on le vit, hein. Pendant qu'on le vit, avec le recul, je me dis, mon Dieu, j'avais énormément de résilience parce que j'avais 12 ans, je viens d'un petit village, là, quand même, Saint-Marc-de-Carrière, d'une famille très modeste, mais très rapidement, c'est ce que les gens me disent quand les gens me revoient, ils me disent très rapidement, j'ai eu envie de recommencer. À faire des activités, à m'inclure dans mon milieu scolaire et tout ça. Donc, et à trouver des solutions quelque part et à trouver une façon d'avoir une vie active dans mon fauteuil roulant.
Puis dans tes discours, justement, tu dis à quel point pour toi la routine est importante, la routine, les saines habitudes, ça ressemble à quoi ton quotidien pour justement garder cette énergie-là?
Ah, bien, mon quotidien. Bien là, ça dépend. Mon quotidien quand j'étais athlète versus maintenant, là, c'est un petit peu différent. Je dirais que ça, c'est peut-être le sport qui m'a amené ça, parce que quand tu es un athlète, les gens voient les grands jeux, ils voient les grands stades, les médailles et tout ça. Mais ça, c'est deux semaines par année. Même pas, là, deux semaines par quatre ans, les championnats du monde en plus et tout ça. Mais la réalité d'un athlète, c'est qu'on est très, très routinier et répétitif. Hein. On reçoit notre plan d'entraînement et on le fait, on le refait, on le refait. On a notre équipe qui ne change pas beaucoup. On a les massages, la nutrition, tout ça. Donc, on dirait que ça fait partie de ma vie de me dire que être structuré un petit peu et avoir une routine qui, des fois, c'est un peu plate, la routine, mais c'est l'accumulation de tous ces entraînements-là, donc la répétition d'une routine qui mène au succès puis aux objectifs qu'on veut. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris à travers le sport. Et je dirais, très franchement, depuis ma retraite, j'ai beaucoup de difficultés à reproduire ce genre de vie-là.
Vrai?
Oui, absolument. Parce que quand tu es un athlète, c'est dur, là. Tu as la pression, c'est toi qui es dans le stade. Mais tu es aussi dans une vie où tu as toute une équipe et chaque membre de ton équipe est là juste pour toi. Tu es le centre de cette équipe-là. Donc, tout le monde est là pour répondre à tes besoins. Et ton objectif, il est assez simple. Bien, C'est simple et compliqué, mais je veux dire, tu dis, OK, dans 4 ans, j'ai ces jeux-là, je fais ces distances-là. C'est quoi le plan de match? Comment qu'on détaille le plan de match pour se rendre là? Et ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est pas représentatif tant que ça de la vie d'une maman, ça, c'est sûr, de quelqu'un comme là, par exemple, ben je suis mère, je suis sénatrice, donc ça implique que je fais Montréal, Ottawa toutes les semaines, 3 jours. Et donc, c'est comme si toute cette espèce de routine-là qu'on peut planifier, ça s'applique moins bien. Tu sais, quand t'es maman, puis je me rappelle quand mon fils était tout petit, et ça, c'est un classique des parents, là, tu sais, tu répètes une certaine routine et là, finalement, t'as un système, mais le temps que tu réussisses à installer ton système, ton bébé, il y a 3 mois de plus, puis ton système est plus bon.
Ouais, il y a eu t'es comme un décalage.
Ouais, t'es constamment en train de changer ta façon de faire. Et quand j'ai accepté mon rôle au Sénat, ben là, encore une fois, on siège pas, on siège jusqu'à minuit, on siège jusqu'à 6 heures. Donc c'est, je dirais que c'est les dernières années, c'est vraiment le défi que j'ai, c'est d'essayer d'organiser tout ça pour retrouver un petit peu plus un équilibre de vie quelque part avec une place pour l'activité physique. Tu sais, j'en fais pas autant.
T'en fais plus autant qu'avant?
Non. Ben, et ça, c'est normal. Je veux dire, j'ai pas l'objectif d'en faire comme quand j'étais une athlète. Quand on est des athlètes, on est, je veux dire, c'est 30 heures semaine, 15 entraînements. Tu sais, c'est complètement on ne fait que ça. Sauf que là, je sais que bien, le sport, la santé, l'exercice, c'est important pour nous. C'est important pour moi, pas pour la haute performance, mais juste pour l'équilibre de vie, le bien-être. Mais j'avoue que j'y réussis pas autant que je voudrais.
Mais ça a quand même une place pour toi dans ton horaire, énormément.
Oui, ça a une place pour moi. Puis c'est surtout que j'ai conscience du fait que c'est important. Quand on part en vacances, on s'assure toujours qu'il y a une piscine. Là, on a hâte de faire un petit peu de vélo. T'sais, on essaie de faire des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment plus activité physique et plein air que de l'entraînement comme tel. Sauf que je sais tellement comment ça fait du bien que je réalise aussi que j'en fais pas assez. Peut-être si on se revoit l'année prochaine, je vais dire, OK, j'ai réussi à reprendre le contrôle.
Mais dans ce que tu fais, il y a moins la paix performance.
Oui.
Donc, tu le fais beaucoup plus pour toi, pour ton bien-être.
Pour mon bien-être.
La paix performance à réussir quelque chose.
Ben, bien-être, gestion du stress. Tu sais, il y a des trucs... puis mon rôle au Sénat et les études qu'on fait au Sénat, tout ça, les études de projet de loi, tout ça, ça me fait vraiment réaliser comment il y a un tas de choses que, intuitivement, je le savais quand j'étais athlète. Tu sais, le fait de s'entraîner, ça a un impact incroyable sur l'équilibre psychologique, la santé mentale, l'équilibre de vie, le bien-être, le sommeil. Et là, ça me fait rire parce que... Bien, ça me fait pas rire, ça me fait sourire parce que quand on lit des études, il y a un tas de choses qui sont capables de quantifier ce que les athlètes... Bien, ce que tout le monde, on sait intuitivement depuis des années. Sauf que là, on a vraiment les chiffres qui disent, le 30 minutes d'activité physique par jour, là, ça a vraiment un impact réel sur la santé mentale. Donc, je suis beaucoup là-dedans d'essayer de faire de la place pour ça.
Puis, tu as parlé beaucoup de ton rôle de Sénat. Mm-hmm. Sénatrice, c'est quoi que ça fait exactement? Pour moi, c'est vraiment vague.
Bien, c'est ce que je me demandais quand on m'a proposé cette aventure-là. Je pense que comme bien des gens, on sait que le Sénat existe, on sait que ça a rapport avec les projets de loi, la législation, mais ça reste un petit peu quand même obscur, là. Et moi, quand j'ai dit oui, ça va faire presque 10 ans, c'était assez intéressant parce qu'on était à une période de l'histoire où, il y avait eu quelques scandales de dépenses du Sénat. Et là, il y avait cette espèce de volonté-là pour une gouvernance du Sénat qui soit beaucoup plus transparente, beaucoup plus saine. Mais plus que ça, il y avait du gouvernement, du premier ministre Trudeau, de ce gouvernement-là, une espèce de volonté de dire, puisque le Sénat est là, pour rester, il faut s'assurer que le Sénat apporte vraiment une plus-value à la Chambre des communes. Donc, on sait, et je vais faire ça tellement rapidement, les projets de loi, ben le parcours d'un projet de loi part d'une première lecture à la Chambre des communes, une deuxième lecture, une étude en comité, une adoption à la Chambre des communes. Après ça, le projet de loi atterrit au Sénat et on refait le même processus. On dit que le Sénat, c'est le second regard attentif. Donc, on plonge encore plus, on rappelle des en comité, je ne sais pas. Si on prend, par exemple, quand on a légalisé le vapotage, par exemple. Je dis ça parce que moi, j'étais marraine. Donc, je championnais ça, puis on voulait le faire avec le plus de sécurité possible. Donc, on reçoit ce projet de loi-là qui est adopté à la Chambre des communes, et là, on se dit, OK, mais qu'est-ce qu'on fait? On fait ça, on creuse ça, on ramène une trentaine de témoins, on l'étudie, on fait les discours, on adopte le projet de loi. Amendé, donc le Sénat avait amendé ce projet de loi-là. Et c'est assez intéressant parce que le Sénat, à l'époque, avait eu cette réflexion-là à se dire, « Ah, c'est encore nouveau, ça, le vapotage. Ben peut-être qu'on devrait laisser assez de flexibilité dans ce projet de loi-là pour que, si les études nous démontrent qu'il y a des dangers, on va être capable de resserrer toute la réglementation. » Et on voit, c'est ce qui est en train de se passer maintenant. On resserre, en tout cas, là, j'embarque dans du petit détail, mais bref, c'est ce qu'on fait au Sénat, dans le fond, c'est qu'on plonge encore plus dans les projets de loi, on les modifie, on les améliore, on les resserre quand c'est jugé nécessaire. Ça, c'est une grande partie. Une autre partie du travail au Sénat, c'est les études en comité. Il y a à peu près une quinzaine de comités au Sénat. Moi, par exemple, je fais partie du comité des affaires sociales, sciences et technologies et du comité d'agriculture. L'an passé, on a fait une étude qui nous a duré 2 ans sur la santé des sols au Canada. Donc, on s'entend, on n'a pas fait la première page de la presse avec ça, mais dans le domaine de l'agriculture, là, ces temps-ci, tout le monde en parle parce que, ben, à cause de ce qu'on a comme rôle, à cause du fait qu'il y a des sénateurs de partout au Canada, on a été capable d'avoir des témoins de partout dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine universitaire, des témoins internationaux. Et là, on a pondu une étude qui va vraiment en profondeur sur la santé des sols au Canada, qui n'avait pas été étudiée depuis quelque chose comme 40 ans. Fait que ça, c'est mon petit Sénat rapide. Ouais.
En tant que personne en situation avec une différence, ben oui. Tu apportes vraiment un rôle à ce niveau-là.
Absolument.
Une belle représentation.
Oui, ben oui. Et je dirais que, à chaque fois qu'on a un projet de loi, j'ai toujours cette espèce de focus-là de me dire, est-ce que ce projet de loi-là va avoir un impact et quel va être cet impact-là sur les personnes qui vivent en situation de handicap? Ça, c'est une des choses que je fais beaucoup, beaucoup. Moi, j'ai été marraine aussi de certains projets de loi. Par exemple, le revenu bénéfice pour les personnes en situation de handicap là, qui devrait quelque part passer comme, bon, les règlements sont presque terminés dans quelques mois, je pense. Et il y a aussi, j'essaie vraiment de sensibiliser mes collègues parce que la triste réalité, c'est que on est 20 % et plus de personnes en situation de handicap au Canada. Sur 105 sénateurs, on est moins. Oui, il y a d'autres sénateurs qui ont certains défis de mobilité, tout ça, mais vraiment comme représentants. Donc, moi, mon espoir, c'est qu'à un moment donné, il y ait plus de sénateurs, sénatrices en situation de handicap parce que c'est pas représentatif du pays, là.
Mais ça ressemble à quoi, le fait de devenir sénateur? C'est quoi le processus? C'est quoi... moi, je connais pas ça. Mais t'sais, ouais. Pas, c'est qui décide ou qui vient de proposer?
C'est ce qui est très, très intéressant parce que il y a eu une époque... les sénateurs sont nommés par le ou la gouverneure générale sous recommandation du premier ministre. Et il y a eu une époque où, c'était toujours, en fait, des gens du parti au pouvoir qui nommaient des sénateurs. Et ce que Justin Trudeau a fait quand il a pensé à cette modernisation du Sénat, il s'est dit, ça prend un Sénat qui est plus indépendant, moins partisan. Donc, on va enlever le parti au pouvoir de tout ce processus de sélection-là. Et là, il y a un comité de sélection qui est indépendant, externe, qui, dans le fond, passe à travers les applications. Tous les ça, c'est assez fantastique là, dans un pays parce que tous les Canadiens, Canadiennes peuvent appliquer pour devenir sénateur, remplir un formulaire, dire pourquoi ils seraient bons, ce qu'ils ont comme compétences et comme expertise. Et là, ce comité-là va soumettre des recommandations et les sénateurs vont être nommés à mesure qu'un siège se libère parce que le sénateur peut rester jusqu'à ses 75 ans. Quand un siège se libère, un autre sénateur est nommé. Et c'est les Canadiens et Canadiennes qui appliquent pour être sénateur. Et je sais, parce que les gens me disent, il y a des centaines de sénateurs qui appliquent.
Alors, c'est toi qui avais appliqué?
Bien, moi, c'est un petit peu différent parce que moi, je fais partie des 7 premiers sénateurs qui ont été nommés avec ce nouveau processus-là. Donc, quand moi, je suis arrivée, ce groupe-là, dans le fond, qui, avant que le processus soit vraiment bien, bien, bien enclenché, qui m'ont identifié. En fait, très, très franchement, je ne sais pas exactement comment j'ai été identifiée. Moi, ce que je sais, c'est que le téléphone a sonné et on m'a dit, ben on veut moderniser le Sénat, on veut un Sénat plus indépendant, moins partisan. Est-ce que tu accepterais de relever ce défi-là. Et c'était comme à une période de ma vie où j'avais été entraîneur pour l'Angleterre. J'avais été chef de mission pour l'équipe qui s'est rendue aux Jeux de Rio. Et là, je me demandais un petit peu qu'est-ce que j'allais faire. Je donnais beaucoup de conférences, mais je me disais, bon, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Et c'est arrivé à ce moment-là. J'avais parlé à des avocats, des sénateurs, parce qu'évidemment, je suis ni une avocate, ni une politicienne. Donc, je me disais, c'était ça ma seule question, en fait, c'est est-ce que, avec le bagage que j'ai comme paralympienne, comme personne qui vit en situation de handicap, je peux avoir une plus-value, tu sais, je peux faire une différence dans ce Sénat qu'on veut moderniser. Et les gens de confiance là, à qui j'ai demandé conseil m'ont dit « Oui, tu peux faire une différence, mais c'est la blague que tout le monde disait, tu vas passer de sprinteuse à marathonienne parce que c'est un petit peu plus long. » Effectivement, c'est plus long, mais ça vaut la peine.
Capable Entreprendre sans limite est présenté grâce au soutien de précieux partenaires. Parmi eux, la BDC. La BDC offre du financement, des conseils et une variété d'outils gratuits pour aider les petites et moyennes entreprises à croître et à traverser les défis actuels, peu importe leur stade de développement. Découvrez comment la BDC peut vous accompagner dans vos projets de croissance en visitant bdc.ca. Chaque personne en situation de handicap développe comme des petites routines, des petites habitudes pour pallier à leurs différences ou des preuves de débrouillardise. Toi, ça ressemble à quoi tes petites habitudes incontournables? Par exemple, si tu te déplaces beaucoup, qu'est-ce que tu dois faire pendant, après, qui va comme te permettre de garder cette énergie-là en tout temps parce qu'on n'est pas tout le temps conscient de la préparation que ça demande?
Ce que j'ai appris assez rapidement, en fait, c'est que quand tu es une personne en situation de handicap et que tu as envie un peu d'aventure, tu sais, si on parle de tourisme, par exemple, si on parle de juste partir comme ça, ce que j'ai appris rapidement, c'est que la spontanéité est pas toujours une bonne idée. Parce que tu peux le faire, puis moi, je l'ai fait beaucoup, puis je dis toujours, quand je parle d'inclusion ou de personnes en situation de handicap, je fais toujours attention parce que je suis assez consciente que je suis pas hyper représentative de tout le monde. On est tous et toutes uniques, hein? notre handicap, il nous... Je veux dire... il n'y en a jamais. On n'est pas deux pareils. Et moi, je sais que je suis assez en forme, mon fauteuil est petit, tout ça. J'ai été une athlète avant, donc j'ai beaucoup d'habileté. J'ai fait le tour du monde, donc je m'adapte assez rapidement. J'ai une grande résilience. Je m'adapte à beaucoup, beaucoup d'environnements. Mais je me suis rendu compte que à un moment donné, oui, tu peux juste dire on part un week-end, on verra où est-ce qu'on dort, on verra où est-ce qu'on mange, et puis soyons impulsifs et spontanés. Des fois, ça marche, mais des fois, ça marche pas, parce que des fois, tu le cherches, le restaurant qui a pas 5 marches, ou tu cherches l'hôtel, puis je pense qu'avec les années, je me suis rendu compte que la préparation, ça vaut la peine. Moi, j'aime beaucoup faire du kayak, mais ça vaut la peine d'appeler pour dire, ben, comment on va se rendre dans le kayak, tu sais, parce que c'est correct de relever des petits défis d'accessibilité, mais des fois, pourquoi se donner des obstacles quand on peut l'éviter? Donc, je suis beaucoup dans la préparation. Je pense que c'est le truc que j'ai appris, c'est que parce qu'il y en aura toujours des surprises de toute façon, et c'est correct, mais de prendre le temps de regarder où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut visiter. Donc ça, c'est beaucoup, beaucoup dans le domaine des voyages et du tourisme. Là, je prends le temps de le faire, et il y a un plaisir aussi, il y a un plaisir à le préparer. Donc c'est vraiment mes trucs. Et sinon, je dirais que avec les années, la COVID, en fait, a peut-être aussi a pas eu que des mauvais côtés. Une des choses qui s'est beaucoup développée avec la COVID, c'est la capacité de, par exemple, de faire venir son épicerie, de faire venir des trucs comme ça. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que, mais oui, je suis capable de partir avec mon fauteuil, de mettre mon fauteuil dans l'auto, sortir mon fauteuil, de pousser mon chariot. Mais je me suis dit, j'ai d'autres choses de plus le fun que ça dans ma vie. Donc, je pense qu'on peut profiter beaucoup de toutes sortes de choses qui n'ont pas été vraiment faites pour les personnes en situation d'handicap, mais qui donnent un petit coup de main, et pourquoi pas, tu sais.
Capable Entreprendre sans limite vous est présenté grâce au soutien de précieux partenaires. Parmi eux, Evol. Depuis 30 ans, Evol soutient les entrepreneurs du Québec avec une approche humaine et distinctive. L'organisation reconnaît la vision unique de chaque projet et prend le temps de comprendre la réalité des entrepreneurs afin d'offrir un accompagnement personnalisé. Personne ne devrait avancer seul devant les défis. Pour en savoir plus, visitez evol.ca.
On arrive déjà à la dernière question. Tu as parlé d'adaptabilité, tu as parlé de préparation, persévérance, de débrouillardise, qui sont toutes des qualités d'entrepreneurs, de personnes qui doivent entreprendre dans leur vie. Toi, tu es associée avec une athlète, en fait, mais je trouve qu'il y a tout le temps une similitude entre les athlètes puis les entrepreneurs. Pour des personnes qui sont en situation de handicap, qui ont une différence, puis qui ont peut-être le blocage de se dire « moi, je serais pas capable d'entreprendre, d'atteindre mes objectifs », ça serait quoi les meilleurs conseils que tu leur donnerais?
Ah, c'est tellement difficile de donner des conseils, mais tu sais, il y a vraiment le classique là, qu'il faut se faire confiance. Et je trouve que on est à une époque où, bien que c'est loin, loin d'être gagné, c'est loin d'être parfait, mais il y a quand même plus de visibilité pour des personnes en situation de handicap et toutes sortes de handicaps. Et je dirais pas que toutes les portes sont ouvertes, mais les portes sont entrouvertes. Hein? Et quelque part, je pense qu'il y a une certaine responsabilité de se dire, ben avec ma différence, tu sais, je vais pousser dans la porte puis je vais l'ouvrir. Et c'est assez surprenant parfois de voir comment les gens, quand on dédramatise et quand on dit, ben écoute, moi, je suis comme ça, je fonctionne comme ça, j'ai besoin de tel et tel outil pour maximiser ma performance, ben il y a plus d'ouverture d'esprit qu'on pourrait le penser. Et ça, il faut en profiter. Je pense qu'il faut pas avoir peur, et on peut avoir de belles surprises sur comment, une fois qu'on décide de prendre notre place, peu importe notre différence, les besoins. Et de nommer les besoins, de pas, et de les nommer, juste de dire, sans sans être dramatique, hein, des fois, et sans... et juste de dire, ben moi, c'est ça. Je suis comme ça, je fonctionne comme ça, j'ai ça comme défi. Parce que, c'est dans ce sens-là, tout à l'heure, je disais, moi, mon handicap, tu sais, il est visible. Ce que je trouve vraiment fascinant, c'est de voir comment un tas d'individus avec des handicaps parfois moins visibles, parfois qui sont un peu plus dans la neurodiversité, par exemple, mais qui, une fois que c'est nommé, que c'est dédramatisé, décortiqué, on se dit, OK, mais comment ça marche? Comment tu marches, toi? Tu sais, comment tu fonctionnes? Puis il n'y en a pas de problème. Il y en a moins qu'on pense. Et ça, je trouve qu'on est dans une belle période comme ça. C'est plein d'espoir.
Merci. Merci énormément d'avoir accepté encore une fois mon invitation.
Merci, ça me fait plaisir.
Moi, je fais des petits dessins, puis j'aime ça, ben, remettre des petites cartes à chacun de mes invités. Fait que je t'ai fait une petite carte qui résume un peu l'essence de notre message.
Merci,
merci. Okay. Des choses que tu as déjà mentionnées. Fait que c'est ça.
Merci.
Ça, c'est à faire par le chemin de gamme.
C'est super gentil. Merci. J'apprécie. On a, c'est les boîtes cadeaux. Je sais pas pourquoi on aime toujours ça.